terminer cette saison. Nous vous proposons aujourd'hui un book club spécial sortie de crise en partenariat avec le nouveau magazine littéraire qui nous accompagne depuis 3 ans et qui, dans son numéro de juin, vous présente une sélection de livres pour revivre. Avec nous, 2 grands penseurs. Ils vous ouvrent leur petite bibliothèque de crise, une invitation à y piocher des livres qui non seulement éclairent le moment, mais aident à envisager l'avenir. Alain Finkielkraut, d'abord, le philosophe que vous connaissez bien, producteur de l'émission Réplique sur France Culture, auteur de l'identité malheureuse chez Stock ou encore d'un livre autobiographique à la première personne chez Gallimard. Bonjour à vous, Alain Finkielkraut.
Bonjour.
Et à vos côtés, Edgar Morin, sociologue, philosophe également, penseur de la complexité, auteur précédemment d'un livre mémoire, lui aussi, Les souvenirs viennent à ma rencontre chez Fayard. Vous publiez aujourd'hui Changeons de voix, un essai qui paraît chez De Noël où vous tirez les leçons du coronavirus en dialogue avec Saba Abouez-Salam. Bonjour Edgar Morin.
Bonjour.
Je suis comme une petite fille heureuse de vous avoir tous les deux aujourd'hui pour conclure cette saison et parler avec vous de ce qui fait peut-être le sel de la vie des idées dans cette période de crise, mais aussi une période où on peut se dire que les imaginaires sont à rouvrir. Vous vous présentez, Edgar Morin, dans ce livre « Changeons de voix » comme l'enfant de toutes les crises que vous avez vécues, vous, du haut de vos 99 ans. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que puis-je espérer? Se demandait Kant. Cette formule, elle est encore une fois d'actualité, on l'imagine pour vous, Edgar Morin, et on imagine qu'elle vous a guidé dans l'écriture de ce petit livre bleu. C'est ces 3 questions-là.
Eh bien, d'abord, ce sont des questions permanentes qui me poursuivent pendant toute mon existence et qui se posent de façon aiguë, justement, au cours de cette crise. Parce que celle-ci, entre autres choses, nous révèle que nous sommes dans d'énormes incertitudes. Tout d'abord, je dirais que bon, c'est une crise multidimensionnelle et je dirais presque totale, parce qu'elle concerne aussi bien nos existences personnelles et individuelles, nos relations aussi familiales ou affectueuse, nos comportements d'extrovertis ont été obligés d'être introvertis dans le confinement, nos mœurs, notre civilisation, notre nation qui est prêtée privée de médicaments les plus importants et qui s'est reformée sur elle-même dès l'arrivée du coronavirus, l'Europe qui s'est trouvée à ce moment-là prise de court, et je dirais la planète, l'humanité, qui elle-même s'est trouvée dans la même aventure incertaine. Donc, si vous voulez, dans cette incertitude généralisée, il faut être conscient que l'on ne peut faire que des paris, en essayant un peu, si on se rend compte qu'on a fait le mauvais pari, de changer de voie. Mais cela étant dit, moi je pense que 2 choses nous sont apparues, déjà sur le plan national, et sans doute qu'il faut étendre. La première, c'est que si on centre, disons, sur le noyau de la crise, c'est-à-dire les hôpitaux, nous savons que le système sanitaire a été victime de 2 maux. Le premier, c'est, disons, cette politique que l'Europe, du reste, a imposée, qu'on appelle, entre guillemets, néolibérale, et qui consiste, disons, à réduire au maximum les services publics et qui tente à commercialiser l'hôpital. Donc, c'est une politique néolibérale qui est en question. La deuxième chose, on s'est rendu compte que au sommet de l'État et dans la haute administration, il y a eu d'énormes bégayements et une grande difficulté à répondre aux besoins les plus urgents. Donc, on a eu 2 problèmes. L'État, là. Maintenant, nous avons été projetés devant un dilemme. Nous vivions dans ce qu'on appelle la mondialisation, qui est un processus surtout technique et économique, et qui, dans le fond, on s'est rendu compte que les interdépendances créées par cette mondialisation ne créaient aucune solidarité. provoquer au contraire des replis et des incompréhensions. Alors, voilà, si vous voulez, je m'arrête.
Juste pour écouter aussi et donner la parole à Alain Finkielkraut, vous dites, Edgar Morin, que cette crise ouverte par la pandémie vous a grandement surpris, mais qu'elle n'a pas surpris votre façon de penser, qu'elle l'a plutôt confirmée. Vous parlez d'un petit, tout petit virus qui a provoqué néanmoins une méga-crise, c'est les termes que vous lui donnez, symptôme virulent d'une crise déjà plus profonde, et vous venez d'évoquer quelques-unes de cette cause, des causes de cette crise plus profonde. Alain Finkielkraut, est-ce que vous aussi vous vous êtes senti conforté dans ce moment que nous avons vécu et que nous vivons encore, dans vos pensées, dans vos analyses, ou est-ce que vous avez quand même eu quelques certitudes remises en cause?
J'ai été pris au dépourvu par cet événement. Et ma surprise ne s'est pas atténuée. Et je crois que nous devons tous garder une certaine humilité. Cet événement a quelque chose de tragique et aussi d'aléatoire. Il nous a pris au dépourvu. Donc peut-être ne faut-il pas aller trop vite dans la projection des idées que nous pouvions nous faire du monde avant le Covid. Donc j'appelle à une certaine prudence et à une certaine humilité. Et puis, j'ai toujours été très sensible à l'exigence formulée par Raymond Aron. Vous savez, il était jeune et brillant normalien, tout lui réussissait, il a fait une conférence au Quai d'Orsay dans les années 30, et c'était une conférence extrêmement brillante, et à la fin, tout le monde applaudit, le directeur de cabinet dit « c'était très beau, mais que feriez-vous à la place du ministre ?» Et il s'est dit, ça je ne dois jamais l'oublier, que ferais-je à la place des politiques? Edgar Morin vient de dire en effet que la politique néolibérale avait contribué à affaiblir les hôpitaux. Mais par exemple, voilà une difficulté que je voudrais simplement soulever parce que je n'ai pas la réponse. Les Allemands s'en sont beaucoup mieux tirés que nous. Tout le monde cite en exemple l'Allemagne. Oui, mais pourquoi? Ils ont plus de lits d'hôpital, mais parce qu'ils ont moins d'hôpitaux. Ce qui fait que la pression même salariale est moins forte. Ils ont des infirmières mieux payées et ils ont moins d'hôpitaux. Alors on pourrait dire, on n'a qu'à faire ça en France. On va regrouper les hôpitaux et comme ça, ils seront plus efficaces. Seulement si on fait ça, on va un peu plus vider des territoires qui se sentent mis à l'écart, on l'a vu avec les révoltes des Gilets jaunes. Donc ce serait extrêmement difficile que de concentrer davantage les hôpitaux après la révolte que nous avons connue tout au long de l'année 2019. C'est un exemple que je donne, mais j'aimerais justement, en cette époque d'après-crise, que l'on soit un peu plus compréhensif à l'égard des politiques, parce que ça les aiderait, et ça nous aiderait aussi à penser le moment que nous vivons.
Alain Finkielkraut, cet événement a déjà donné lieu à une abondante littérature du confinement. Pas vous, vous n'avez pas eu envie d'écrire pendant ces dernières semaines?
Écoutez, moi je suis malheureusement très lent et même de plus en plus lent. Alors j'ai écrit, j'ai pris des notes, j'ai fait quelques interventions, notamment un entretien dans le Figaro, un entretien dans le Midi Livre, mais je ne me sentais pas de taille à surplomber l'événement lui-même. Donc je pensais que je devais encore le digérer si jamais j'allais écrire quelque chose. Donc voilà, j'ai demandé du temps.
Changeons de voie, les leçons du coronavirus qui paraît chez De Noël, Edgar Morin. Vous avez pris votre plume pour essayer de comprendre ce qui se jouait là. C'est pas une tentative de le surplomber, hein, cet événement, comme vient de l'évoquer, en tout cas dans sa crainte, Alain Finkielkraut. Est-ce que vous diriez que ce livre-là, cet impératif, changeons de voie, c'est un peu votre indignez-vous à vous, à la manière de Stéphane Hessel, c'est-à-dire une invitation d'abord à réagir ou à résister, Edgar Morin?
Écoutez, bon, tout d'abord, je tiens à dire que au cours de cette période de confinement, J'étais occupé comme jamais je ne l'étais occupé, parce que je lisais beaucoup les informations, les opinions, qu'elles soient de scientifiques ou de médecins ou de politiques. Je réfléchissais beaucoup et j'étais amené à intervenir ou à réagir. Autrement dit, ce livre-là est sorti, si vous voulez, à la fin du confinement. C'est le fruit de tout ce que j'ai essayé de digérer pendant ces deux mois et que pendant une quinzaine de jours, j'ai voulu mettre en forme. Maintenant, mon idée, moi je ne suis pas quelqu'un qui surplombe, je suis quelqu'un qui est dans le monde. J'ai toujours eu cette conception, disons, de cette communauté de destin humaine que du reste là. La mondialisation a accru une communauté de périls. J'ai toujours eu conscience, d'ailleurs, avant même l'histoire du virus, on a sorti une demi-vidéo de 2012 où j'annonçais des catastrophes. Pourquoi ? Parce que on savait, disons déjà avant, que ce processus aveugle menait, disons, sans pilote de la technique, de la science, de l'économie, d'abord dégradait la planète, c'est-à-dire non seulement la biosphère qui nous est extérieure, mais aussi la société et la vie qui nous est intérieure, avec les multiples pollutions et dégradations, qui est un problème, et c'est absolument crucial là-dedans.
Mais vous l'écrivez et vous dites qu'il est urgent maintenant de changer de paradigme.
Et d'ailleurs, disons, quand on dit le mot de paradigme, il faut s'entendre sur le sens de ce mot. Moi, je le prends dans un sens dérivé du linguiste Jacobson, c'est-à-dire le niveau où l'on choisit les pensées, les mots, les idées, et qui commande nos pensées, nos discours. Nous sommes, disons, sur l'empire d'un paradigme qui nous oblige à séparer les choses plutôt qu'à les relier et à les réduire. Et disons, on peut dire que ce paradigme ne contrôle pas seulement nos pensées, mais notre civilisation. Et je pense que effectivement, cet épisode est un des plus de crises qui montre que le processus qui a commencé à la Renaissance et qui a été un processus plein de choses merveilleuses du point de vue culturel, économique, social, etc., philosophique, est un processus qui, historiquement, arrive à quelque sorte à un épuisement. La crise écologique est un cas, et puis je dirais même que nous vivons depuis avant cette crise du coronavirus. Il y avait non seulement en France des phénomènes, disons, de la grève des retraites et les gilets jaunes, qui étaient la façon française d'un mouvement mondial de colère populaire qui, du reste, a avorté. Il y avait quand même une crise générale des démocraties qui faisait qu'un peu partout s'installaient des régimes néo-autoritaires qu'on appelle bébêtement populistes. Disons, l'humanité, les nations subissent une crise, et cette crise nouvelle et inattendue, ça rajoute et nous fait réfléchir.
L'humanité. Pourquoi l'humanité doit-elle exister, Alain Finkielkraut ? Je vous ai demandé, Alain, comme à l'autre d'ailleurs, de nous ouvrir votre bibliothèque de crise ou de sortie de crise, et l'essai que vous avez choisi, c'est le principe responsabilité de Hans Jonas, du philosophe allemand. Pourquoi ce choix ?
Ce choix, effectivement, parce que le principe responsabilisé de Hans Jonas est un des livres que j'ai toujours ouvert devant moi. Le principe responsabilité, il l'oppose au principe espérance d'Ernst Bloch. Il dit, alors là, pour le coup, qu'il faut un véritable changement de paradigme à la politique. En ce sens, il rejoint Camus et son extraordinaire discours de Suède, discours du Nobel. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Et Hans Jonas enfonce le clou, si j'ose dire. Le temps est venu d'une éthique de la préservation, de la conservation, et non pas du progrès et du perfectionnement indéfini. Et il va très loin dans ce sens, parce que il dit ceci, il faut libérer l'exigence de justice, de bonté, de l'appât de l'utopie. Hein? Parce que, dit-il, il faut se débarrasser de ce qu'il appelle l'ontologie du pas encore être. L'ontologie selon laquelle l'homme n'est pas encore. L'homme est à faire, l'homme est à améliorer. Ils disent, cette ontologie est inquiétante, elle peut même être meurtrière parce qu'elle disqualifie l'homme tel qu'il est aujourd'hui et le monde dans lequel il vit. Et j'ajoute aussi ce qu'il y a d'extraordinaire dans sa pensée, c'est-à-dire il commence en disant il faut une éthique qui empêche le pouvoir de l'homme d'être une malédiction pour lui. Oui, voilà, maîtrise et possession de la nature, mais tout d'un coup ça peut, le projet devenant processus, devenir une malédiction pour l'homme. Mais il va plus loin. Il dit, ce n'est pas seulement pour lui. Il écrit un appel muet, qu'on préserve son intégrité, semble émaner du monde, de la vie, là où cette intégrité est menacée. Et je trouve ça très beau, c'est-à-dire qu'il invite aussi à un décentrement de l'homme. Oui, la crise écologique, c'est ça. C'est-à-dire, des espèces disparaissent. Des espèces disparaissent, des oiseaux, on le sait bien, c'est la réduction de la biodiversité, dit-on dans le jargon technocratique, qui est aussi, hélas, celui des écologistes. Mais les éléphants disparaissent. Et le principe responsabilité, c'est une responsabilité qui va au-delà de l'humain. Et je trouve cette pensée extraordinairement actuelle et plus nécessaire que jamais.
Edgar Morin, cette éthique telle que l'a définie ou l'a redéfinie Antionas et dont vient nous parler Alain Finkielkraut, et cet appel aussi à la responsabilité des générations présentes envers les générations futures, ça fait partie de vos lectures aussi importantes, des lectures que vous pourriez avoir, des livres que vous pourriez rouvrir en ce moment.
Bien entendu, mais j'ajoute, je veux d'abord dire que non seulement j'apprécie l'œuvre de Jonas, mais dans mon petit essai « Changeons de voix », au noyau de la pensée, il y a le double principe « responsabilité, solidarité » qui sont essentiels. Et ce que je dis, c'est que à la source de toute éthique, il y a la solidarité, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un ensemble, d'une communauté, et que la solidarité nous conduit à la responsabilité. Et inversement, que toute responsabilité nous conduit à la solidarité. Et donc, je dis que c'est au cœur de notre pensée éthique et politique à la fois, parce qu'il y a une conjonction, qu'il faut faire ceci. Donc, si vous voulez, je serai pleinement d'accord, et même j'élargis, j'amplifie, je mets au cœur de tout responsabilité solidaire, y compris pour régénérer la politique qui aujourd'hui est vide et creuse. Donc, voilà sur ce point-là.
Avec vous, un mot de vos choix, Edgar Morin, ce ne sont pas les morts ou les grands classiques qui éclairent aujourd'hui les vivants. Vous nous recommandez 3 essais écrits pendant le confinement, des essais de crise qui réfléchissent à l'après. Alors, le bien nommé « Et après » de l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, « L'économie de la vie » de Jacques Attali et « Leur folie, nos vies » du député France Insoumise François Ruffin. Pourquoi ces 3 essais qui ont quand même en commun avec le vôtre de remettre la menace climatique au premier plan, de questionner durablement la mondialisation et comme vous la pratique de la délocalisation et qui peut-être, et c'est pour ça que vous les avez choisis Edgar Morin, porte les germes d'un changement.
Je les ai choisis tout d'abord parce que chacun apporte quelque chose d'important, par exemple l'idée d'économie de la vie qu'il faut mettre en premier lieu dans la pensée économique, dans le livre d'Attali, me semble tout à fait importante. Que Ruffin lui-même montre qu'il y a quelque chose de fou dans l'aventure que nous poursuivons, c'est un point de vue intéressant. Je pense que c'est des éclairs. Je pense que la crise va donner lieu à des éclairages divers. Et moi, en tant que malheureux, disons, le tenant de la pensée complexe qui consiste à ne pas être unilatéral, mais de voir la multiplicité des aspects d'un même phénomène, je pense qu'il faut un peu intégrer. Mais si vous pensez de mes sources plus profondes, comme celles d'Alain Finkielkraut, moi, mes sources fondamentales, je dirais que c'est Héraclite, parce qu'il a eu le sens des contradictions permanentes que rencontre la pensée, et que ce sont ces contradictions que l'on tend toujours à fuir. Je dirais que c'est Montaigne, parce que Montaigne, il a dépassé à la fois toutes les croyances religieuses dans sa conception du doute et dans son introspection, que c'est le vrai fondateur de l'humanisme européen, d'autant plus qu'il était ouvert sur le sort des malheureux Indiens que torturaient les conquistadors. Donc je dirais que Rousseau, je pense que j'ai ces sources-là qui sont vivantes en moi.
Voilà, qui sont moins pas étonnantes pour un apôtre de la complexité comme Edgar Morin, Alain Finkielkraut. Vous vouliez réagir à ces trois choix?
Ah ben, alors, réagir à ces trois choix, non, je ne peux pas, parce que je n'ai pas lu les livres, donc c'est difficile pour moi. Évidemment, leur folie, nos vies, ça me fait un peu trop peur, parce que c'est instaurer, si vous voulez, une sorte d'abîme entre les gouvernants et les gouvernés. Je pense que les gouvernants et les gouvernés, notamment pendant cette crise, étaient dans le même bateau. Si vous voulez, toute la philosophie macronienne a été suspendue, mise entre parenthèses. Il misait sur l'économie pour résoudre tous les problèmes, même les problèmes civilisationnels de la France. Il a figé l'économie. Il misait sur la mondialisation. Il a fait le chômage partiel avec une générosité qui n'a pas d'équivalent en Europe. Donc, je crois que cette opposition ne tient pas, et justement parce que nous devons nous en rendre compte, en tant qu'humanité, mais aussi en tant que nation, une communauté de destin. Et c'est cela, je crois, qui doit primer sur toute autre considération.
Voilà.
Il y a des moments où il est bon de ne pas poursuivre la lutte ou de ne pas croire que la politique passe exclusivement par la lutte. C'est ce que dit Camus. On ne vit pas que de lutte et de haine. Il y a autre chose, mais il y a aussi autre chose dans la politique, me semble-t-il.
Un bateau qui a tangué fort pendant ces dernières semaines pour tout le monde. Alors certains ont reproché au gouvernement, aux dirigeants actuels en France, mais pas seulement, leurs mensonges, leurs doutes, leurs hésitations. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui un cap a été trouvé, ou en tout cas vous la voyez se définir, cette communauté de destin, Alain Finkielkraut?
Alors écoutez, je vais vous répondre par un biais. Le deuxième choix que j'ai fait, c'était Némésis de Philippe Roth, son dernier livre, écrit en 2012, après, vous savez, il a pris sa retraite. Et il imagine une épidémie de polio à Newark, sa ville natale, en 1944. Le héros, Eugène Cantor, surnommé Bucky par son grand-père intransigeant, est un homme de devoir, affecté d'une mauvaise vue. Il est donc réformé. Nous sommes en pleine guerre, il ne peut pas aller à la guerre. Il s'occupe, et il en est très malheureux, il en a honte, il s'occupe d'un stade à Newark. Et des enfants, alors que la polio fait rage. Il va rejoindre sa fiancée dans un camp d'été. Cette fiancée, et puis tout d'un coup, la polio se déclare dans ce camp. Lui-même est atteint, il pense qu'il l'a apporté, il en est très malheureux, il ressort de cette maladie paralysé, enfin en tout cas handicapé, très affaibli, il renonce à cette femme alors qu'elle veut être avec lui, et il rencontre un peu plus tard un de ses anciens élèves, et là c'est une rencontre à la Henry James justement, enfin peu importe, et celui-ci lui dit qu'il a eu la même maladie, mais que lui s'est marié, qu'il a fait une vie, qu'il est heureux. Simplement Bucky Cantor se sent coupable, et il veut expier, justement. Et la Némésis, c'est la divinité qui se venge, en quelque sorte, de la démesure, de l'hubris. Mais la démesure de Bucky Cantor, et c'est là que je vais vous répondre, ce n'est pas la démesure de l'instinct, c'est la démesure de la raison. Il veut une explication à tout. Il veut une interprétation à tout. Et donc, comme le dit Bucky Cantor, pour lui, il n'y a pas de hasard, hasard, il n'y a pas d'aléa. Il faut qu'il convertisse la tragédie en culpabilité. Et c'est ce que nous avons fait pendant le coronavirus. Sauf que c'est pas la culpabilité d'un homme qui prend tout sur lui. C'est la culpabilité des politiques, si vous voulez. Nihil est sine ratione. Il y a une raison à tout. Et comme nous sommes dans un monde humain, eh bien, la raison, ça devient la culpabilité. À qui la faute? Et la faute, c'est à l'homme moderne en général et à nos gouvernants en particulier. Je n'aime pas cette attitude, je n'aime pas cette pénalisation de la vie politique. Je crois que nous devrions garder, avec un peu plus d'humilité justement, le sens du tragique.
On écoute, Philippe.
Excusez-moi, j'étais un peu rapide.
J'ai écrit un homme. J'ai écrit Indignation, puis j'ai écrit Le Rabaissement et Némésis. Chacun de ces livres raconte le cataclysme que représente la mort. Comment mourir affecte la vie de ceux qui vont disparaître. Mon rôle, Tchekhov disait que le rôle d'un artiste consiste à faire une représentation adéquate du problème de la mort. Comment le décrire ? Et la raison pour laquelle j'ai écrit 4 livres sur la mort à l'âge de 77 ans n'est pas difficile à comprendre. Feuilleter son carnet d'adresse et parcourir les allées d'un cimetière, on passe sa vie aux enterrements. Toute personne de mon âge ou plus vieux enterre quelqu'un tous les 6 mois. Qui ? Plus vos parents ou grands-parents, bien sûr, non, vos amis. Et c'est particulièrement douloureux de perdre ses amis. C'est une saloperie, mais vos amis meurent. La perspective de mourir me fait peur, me rend triste, me donne envie de tout revivre une dernière fois, mais ne me mets pas en colère. Je ne suis pas inquiet, je suis triste, mais je ne suis pas inquiet.
Voilà, comme l'évoquait Alain Finkielkraut, à travers son choix de Némésis, de Philip Roth, Edgar Morin, cette crise, elle a aussi questionné notre rapport à la mort. Hein.
Évidemment, c'est-à-dire, c'est pas seulement que dans nos vies qui semblaient bien réglées, où la mort était toujours reportée plus loin et plus ou moins occultée, elle surgit comme possibilité, mais je pense que c'est surtout les conditions du confinement qui ont montré à quel point, d'abord, ce phénomène où le mourant, l'agonisant, a besoin qu'on lui tienne la main, que ses proches soient près de lui, enfin, on a laissé, dans les conditions de réanimation, mourir dans la solitude des gens. Et surtout, je pense que le fait de ne pas pouvoir faire la cérémonie du deuil qui est absolument indispensable aux survivants, à la fois pour communier, je ne dirais pas purifier, mais pour assimiler autant que possible cette perte terrible qui les frappe, et que nous avons tous besoin de cérémonie et de communion au moment de la mort d'un proche, ça, les malheureux dont les parents sont morts, n'ont pas pu faire cette nécessité de pratique du deuil de ce moment capital. Donc, si vous voulez, parce que la mort, bien entendu, était une possibilité, mais enfin, d'autres épidémies ont causé beaucoup plus de morts. C'était pas tellement la question. C'était que c'était une mort d'autant plus mystérieuse que personne n'arrivait à déterminer quels étaient les vrais ravages de ce virus, quels étaient les vrais remèdes, etc. Il nous mettait dans un état d'incertitude totale.
Voilà, une mort souvent solitaire et sans communion, de la mort à l'amour, Edgar Morin, c'est votre choix. Deux romans, celui de Gabriel Garcia Marquez. Alors, passant temps de solitude, même si vous donnez à votre préambule dans Changeons de voix le titre S'entend de vicissitude, mais L'amour au temps du choléra, qui était d'ailleurs aussi le livre préféré de son auteur.
Mon livre préféré, c'est L'amour au temps du choléra. C'est celui-là qui va rester. Cent ans de solitude est un livre mythique. Je ne discute pas de ses mérites. Mais l'amour au temps du choléra est un livre humain qui parle concrètement de ce que nous sommes. Pendant des années, nos parents nous ont raconté l'histoire de leur amour contrarié avant leur mariage. Pour écrire ce livre, je les ai interviewés, comme un journaliste, tous les jours et séparément. Sinon, ils se contredisaient et finissaient même par se disputer. Je prenais d'abord mon père, puis ma mère, et j'ai reconstitué toute l'histoire. L'amour au temps du choléra raconte, dans les moindres détails, l'histoire de leur amour.
Alain Finkielkraut, est-ce que comme Edgar Morin, vous avez eu aussi pendant cette période envie de réenchanter un peu le monde par vos lectures et de re-questionner des valeurs ou des sentiments plus positifs comme l'amour ?
En tout cas, je partage totalement l'admiration d'Edgar Morin pour l'amour au temps du choléra. C'est un livre qui m'a enchanté. C'est un livre extraordinaire d'ailleurs parce que finalement, c'est ce couple vit son amour très tard et dans la vieillesse, il y a aussi une étrange fête de la sexualité. C'est un livre merveilleux. Alors moi, je n'ai pas fait le même choix, mais c'est là encore, il y a une part de hasard dans la lecture la plus importante que j'ai faite pendant le confinement. Elle m'a été suggérée par Mona Ouzouf, et c'est la princesse Casamissima de Henry James. Je ne saurais pas vraiment conseiller ce livre, parce qu'il est lent, parce qu'il peut être ennuyeux, comme seul James sait l'être, mais c'est un livre qui m'a laissé une impression durable et même décisive. Alors je dis très brièvement de quoi il s'agit, aussi brièvement que possible. Le héros Hyacinthe est le fils illégitime d'un lord anglais et d'une petite ouvrière française. La mère d'ailleurs a tué le père, par jalousie aussi par ressentiment social. Elle purge sa peine dans une prison. Et lui c'est un petit relieur, élevé dans la pauvreté, par une couturière. Et puis
En un mot, Alain Finkielkraut, pourquoi ce livre ? Parce qu'il faut que je rende l'antenne.
Il faut que je rende l'antenne. Oui, pourquoi ce livre ?
Mais invitez nos auditeurs à lire.
Cet homme s'était voué à la révolution. Il voulait tuer, il devait tuer un représentant de l'ordre social. Et puis en même temps, il s'est mis à aimer comme un fou la civilisation. La civilisation, le passé de la civilisation, et notamment à Paris, le monde privilégié de la culture. Alors, au moment d'accomplir son acte héroïque et sacrificiel, il retourne l'âme contre lui-même. Il dit, oui, mais j'ai la passion de l'égalité, mais j'ai aussi la passion du vieux monde de la culture, qui est peut-être bâti sur l'inégalité. Et je trouve que ce dilemme est extrêmement profond. Voilà la raison, et j'ai fait le plus vite possible, je vous promets.
Merci beaucoup. Mona Ouzouf, qui a publié aussi vos entretiens pour rendre la vie plus légère. Des livres des femmes, les manières, c'est chez Stock. Demain à 9h, vous recevrez Alain Finkielkraut, Raphaël Enthoven, dans le cadre, non pas du festival, mais de l'Estival Albert Camus, qui s'est ouvert aujourd'hui sur notre antenne jusqu'à dimanche soir. Un énorme merci à vous aussi, Edgar Morin. Changeons de voix, les leçons du coronavirus. Le livre vient de paraître chez De Noël, c'était un plaisir de vous recevoir. Tous vos conseils de lecture, on les met et on les retrouve sur la page de la Grande Table des Idées sur franceculture.fr. C'est l'heure des merci aussi, parce que c'était la dernière de la saison. Ils sont passés par là, Éric Lancien, Gilles Blanchard, Benjamin Hu et aujourd'hui encore Anna Olvec à la réalisation. Un grand merci à eux. Merci à tous les techniciens de France Culture et aujourd'hui notamment à Florent Bujon et à ses camarades de la brigade de Radio France qui nous ont bien accompagnés depuis ce déconfinement. À nos stagiaires en or, François Bréus et Sophie Marty, Philomène Villard et Marceau Vassy, à Jean-Christophe Brianchon et Bruno Barada qui ont jonglé avec la programmation et les idées toute cette année. À Thomas Cluzel pour son journal, que j'aurai plaisir à retrouver, en tout cas à la rentrée. À Aurélien Delacroix et Laura Dutèche-Pérez, les indispensables, l'une à la programmation, l'autre à la préparation. Et puis à Henri Leblanc, tout particulièrement, parce que ça fait déjà 4 ans, 4 années de Grande Table, culture et idées ensemble, dans cette dernière particulièrement riche en rebondissements, pourvu que ça dure.